On passe à la deuxième partie de Liberté sur Parole. Dans cette deuxième partie, on va commencer tout de suite par parler de Cassandre Orchamps, cette revue qui prend l'art pour principe actif, voit son numéro 88 sortir en ce moment. Vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies. On va entendre dans un instant Nicolas Roméas, qui est son directeur et son fondateur. Et non seulement pour nous parler de ce numéro qui vous pouvez avoir entre les mains très bientôt, mais aussi pour vous parler d'une rencontre qui a lieu ce soir à 19h30 au Motif et qui est une rencontre entre plusieurs personnes qui font des revues. Il y aura notamment Patricia Orsgagnan, qui est membre du comité de rédaction de la revue Mouvement, alors Mouvement avec un S, hein, qui est une revue faite notamment par beaucoup de sociologues et de chercheurs et qui s'intéresse pas mal à l'international. Il y aura également André Chabin, animateur du réseau Entrevues, et puis donc Nicolas Roméas de la revue Cassandre. Ça se tient au Motif. Le Motif, c'est dans le 19e, 6 Villa Marcel Lotz, passage de l'Atlas, et c'est au métro Belleville. Voilà, histoire de se demander ensemble pourquoi faire une revue aujourd'hui. Qu'est-ce qui différencie une revue de ce qu'on appelle des magazines, et surtout quel rôle doivent jouer les revues vu dans le travail de résistance et d'invention culturelle. On écoute tout de suite Nicolas Roméas. Nicolas Roméas, bonjour.
Bonjour Eugénie.
Alors, le numéro 88 de la revue Cassandre Orchamps, intitulé « Pour un nouvel art poélitique », vient de sortir. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots pourquoi il faut absolument l'acheter et la lire ?
Vous n'avez pas osé dire le vrai titre, c'est « Pour une révolution poélitique ».
J'ai oublié de dire « révolution », pourtant je dis vraiment très souvent.
Mais c'est la même chose, hein. C'est un art de vivre dans lequel l'imaginaire et ce que j'appelle le symbolique est présent, réellement présent. Alors, nous avons exploré avec un certain nombre de personnes qui font ce travail depuis très longtemps et qui ont prouvé leur implication, ce qu'on appelle... D'une part, la poésie-action avec Serge Pey qui fait un boulot absolument magnifique dans lequel les mots sont très importants, le rythme est très important, la langue, mais aussi les symboles, les gestes, les mises en scène qui sont parfois des mises en scène impromptues, parfois dans l'espace public, toujours pour exprimer des choses qui ont du sens par rapport à la situation de cette société. Nous avons aussi exploré, en interrogeant Bernard Lubat, ce qui se passe avec les mots, entre les mots et la musique, du côté d'un engagement qui est à la fois un engagement occitan, un engagement politique tout à fait contemporain, et une manière de faire, avancer la musique avec les mots dans un tissage indissoluble, c'est-à-dire que les deux sont complètement ensemble. Et donc on a mis l'accent sur... Alors on n'ose pas employer le mot poésie parce qu'il a pris une telle connotation aujourd'hui. On a l'impression que c'est quelque chose de tellement fort, informel, appuyé sur un système de rimes, de rythme, de scansions particulières comme l'alexandrin qui est le système qu'on connaît le mieux, qu'on oublie ce que c'est originellement. Donc exactement comme on le fait pour le théâtre, on essaye de retrouver qu'est-ce que c'est à l'origine. Si origine il y a, mais en tout cas au fond, à la source permanente et contemporaine, derrière ce mot poésie. Poésie vient du verbe grec poien, qui signifie faire. Donc vous voyez, comme pour d'autres arts, les marionnettes qui sont devenues une chose réservée aux petits-enfants, les contes, c'est un peu la même évolution. La poésie, c'est pas pour les petits-enfants, mais c'est pour très 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 peu de gens. Et ça devient quelque chose comme ça, d'un peu fermé dans son monde, dans son univers, qui perd la puissance de cette source. Donc si on revient à cette source, si on rappelle que poéienne, ça veut dire faire, Alors, la logique nous entraîne du côté de gens comme Serge Peille, comme Julien Blaine aussi, que j'ai oublié de citer, ou comme Bernard Lubat, qui sont des gens qui agissent, et qui agissent avec les mots, mais dans le réel, et pas seulement pour un aréopage de...
J'allais dire avec les autres aussi.
Voilà, c'est ça.
Et alors, je crois que dans ce numéro, et peut-être même dans le prochain, et peut-être même dans le précédent, il y avait une sorte d'interpellation, c'est-à-dire que vous posez des questions à certaines personnes un peu référentes du monde de la culture, comme on dit, ou du monde de l'art, sur qu'est-ce qui serait, que serait une autre politique pour la culture et pour l'avenir.
Oui, la question qu'on se pose, et elle devient vraiment une question forte, violente, cruciale, c'est comment se fait-il que les responsables politiques, les représentants de ce peuple que nous sommes, n'aient pas encore exploré cette part invisible de la culture et n'aient pas encore accès à la conscience du fait que un certain nombre de choses qui ne brillent pas, qui ne rapportent pas d'argent, qui n'ont pas de valeur marchande du tout, sont fondamentales pour une civilisation. Et c'est dans ce sens-là que nous parlons de culture. C'est dans le sens où je préfère d'ailleurs parler de l'univers du symbole, parce que ça nous évite l'effroi que le mot culture peut parfois provoquer chez certains, à juste titre, hein, dans un monde qui a été construit par des monarchies et qui a créé des cours et qui a créé des élites. Le mot culture aujourd'hui est compris surtout dans le sens de l'appartenance à une élite. C'est pour ça qu'on parle toujours de l'accès à la culture et non pas du partage et de la circulation. Si on parle d'accès, ça voudrait dire que ça se fait dans un endroit et du côté de l'élite et d'autres, du côté du peuple, on pourrait y avoir accès. Nous parlons différemment.
Oui, alors la culture, c'est pas non plus le divertissement, parce que l'accès au divertissement, c'est aussi peut-être avoir 3 sous pour pouvoir aller, avoir la chance d'aller au théâtre, au cinéma ou acheter un DVD.
Oui, ça c'est le drame qui nous pend au nez, hein, et qui devient de plus en plus menaçant, c'est de transformer en effet la pratique de l'art en marchandise, en objet marchand, en objet de consommation pure, avec des spectateurs qui n'ont jamais leur mot à dire, et qui doivent se contenter de choisir telle ou telle œuvre, telle ou telle production, mais qui n'y participent plus. C'est très important de rappeler ça, de rappeler que le théâtre, dans son fonctionnement d'outil de société, c'est quelque chose qui sert à remettre en question en permanence notre mode de vie collectif. C'est à ça que ça sert.
Et donc aussi ceux qui nous dirigent.
Voilà, exactement. Donc c'est à eux d'en prendre conscience. Mais je pense que aujourd'hui, on en est à peu près au même état, au même niveau que les écologistes et René Dumont et tous ces pionniers, il y a une quarantaine d'années, en étaient lorsqu'ils essayaient de nous convaincre du fait que la planète était en danger, que certaines parties du globe, notamment en Afrique, se désertifiaient, que c'était dû à des causes très précises, et notamment une industrialisation sans frein, sans limite. Je pense que du côté de ce qu'on appelle la culture ou l'univers du symbole, on en est aujourd'hui au même stade, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse comprendre que cette fois-ci, ce n'est pas la planète simplement qui est en danger, c'est bien plus grave que ça, c'est l'être humain et les outils pour construire vraiment un être humain, c'est-à-dire les outils du symbole, à commencer par le langage.
Alors, à découvrir dans la revue tout le reste, dont on ne va pas parler aujourd'hui, parce que voilà, il faut la trouver. On la trouve où d'ailleurs, cette revue ?
On la trouve dans toutes les librairies. Si on ne la trouve pas, il faut la réclamer violemment. On doit la trouver dans toutes les librairies. On la trouve dans la plupart des FNAC. On la trouve aussi sur Internet, sur notre site orchamp.org.
Site sur lequel on trouve tous les endroits où on la trouve.
Voilà, c'est ça. Donc le mieux, c'est de visiter orchamp.org. Voilà. Comme ça, on a toutes les informations.
Voilà, et alors Hors-Champ, ce n'est pas qu'une revue, c'est plein d'autres choses. On va parler en particulier des missions d'agitation que vous avez aussi, c'est-à-dire de faire des débats, de faire parler autour de la revue, de provoquer des rencontres, des dialogues. Et la prochaine rencontre, c'est donc ce lundi 6 février, et c'est une rencontre autour du thème de la revue. Pourquoi faire une revue? Alors dites-nous rapidement où ça se passe et avec qui, parce que vous n'êtes pas les seuls dans cette affaire.
Ça se passe au motif, passage de l'Atlas, Villa Marcel Loss, à côté du métro Belleville, au motif qui est le lieu de l'édition en Île-de-France, donc de la région Île-de-France. Et nous faisons ce débat avec la revue Mouvement au pluriel, avec un S à la fin, qui est une revue complètement passionnante de sociologie, d'histoire, de politique, sur des questions extrêmement larges, et sur beaucoup de points on se recoupe. Cassandra Hors-Champ est sur les pratiques de l'art, mais nous nous recoupons avec Mouvement, avec un S à la fin, dans beaucoup de points de vue politiques.
Voilà, ils sont très, très axés sur l'international aussi, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent beaucoup à ce qui se fait ailleurs dans d'autres pays, même dans d'autres continents, c'est terrible.
Absolument, et nous faisons également avec André Chabin, qui dirige l'association Entrevues, qui est une association extrêmement utile pour le débat au milieu de cet univers des revues, entre les gens qui pratiquent des revues, pour la défense de cette chose très particulière et très spéciale, et notamment dans l'histoire culturelle française que sont les revues. Et donc un grand connaisseur de la chose avec qui nous allons débattre de cet outil particulier qui n'est ni un magazine, ni un journal, ni aucun autre média, mais qui est une revue, c'est-à-dire qu'il y a regarder, revoir, revisiter, repenser. Peut-être que j'irai jusqu'à dire ruminer, mais en tout cas essayer de faire travailler les choses jusqu'à ce qu'on ait pu en extraire du sens.
D'accord. Alors moi, je suis répétant le mot revue dans ma tête, j'ai eu aussi d'autres images qui sont venues. Alors on sait que la presse magazine est en crise, et la question que vous allez poser aussi, c'est pourquoi créer une revue? Alors bon. Créer une revue par rapport à un magazine, c'est un mode de distribution différent, c'est un mode d'économie aussi différent. Et je réfléchissais au mot revue. Revue, ça évoque la monstration aussi, ça évoque la revue de cabaret, ça évoque la danse. Alors je me disais, est-ce qu'une revue est forcément une danseuse? Est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'envie, de l'ordre du plaisir, et pas de l'ordre de l'économiquement viable ou rentable?
Si c'était une danseuse, ce serait certainement une danseuse de Katakali plutôt qu'une danseuse au sens péjoratif qu'on lui donne aujourd'hui quand on parle de la danseuse, c'est-à-dire cette chose accessoire et inutile. Non, c'est pas du tout ça. Ce serait une danseuse, mais c'est la danse de la vie, c'est la danse du sens, c'est la danse des mots. Comme dit un ami de France Culture, c'est la danse de la pensée, c'est la danse de l'esprit.
C'est peut-être la danse tout court aussi, c'est peut-être le même débat qu'on avait un peu tout à l'heure par rapport à la culture, c'est-à-dire qu'on dit que c'est une danseuse, mais la culture, on dit que aussi c'est une forme d'accessoire de danse, mais en fait c'est juste parce qu'on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas reconnaître la vraie valeur des choses. C'est peut-être plus important d'avoir une danseuse que d'aller au bureau tous les matins.
Oui, alors dans ce sens-là, oui, mais par rapport au sens péjoratif du mot danseuse, j'insiste, c'est exactement l'inverse. C'est central, c'est indispensable, c'est au cœur du moteur, c'est au cœur de notre moteur, parce que sans culture et sans les outils qui permettent de faire circuler la culture, dont la revue au premier chef, serions-nous des êtres humains? Pourrions-nous communiquer? Aurions-nous un langage? Aurions-nous des idées? Saurions-nous le sens des mots? Connaîtrions-nous l'histoire de la pensée? Donc c'est une façon d'être à la fois complètement contemporain, moi je pense que la grande caractéristique de la revue, d'une revue en général, je veux dire, c'est de relier les périodes, de parler du présent en n'oubliant jamais le passé et en ayant toujours l'avenir en perspective. C'est-à-dire que nous sommes dans une chaîne. Et je pense que revue, c'est ça que ça signifie. Nous sommes dans une chaîne temporelles, d'êtres humains qui nous ont précédés, sachant que d'autres nous succéderont. Et nous sommes là, à cet endroit, entre ce passé qui nous a fait, qui nous a formé, qui nous a enrichi, et ce futur dont nous avons la responsabilité de faire en sorte qu'il ne soit pas catastrophique, qu'il ne soit pas ultralibéral, pour parler très vite. Hein. Et je pense que cette obligation de réflexion, cette obligation morale que nous avons aujourd'hui de réfléchir et de résister à l'arasement de la pensée, à l'arasement du passé, à l'arasement de l'histoire, passe par des outils dont la revue fait partie, contrairement, vous l'avez évoqué rapidement, mais contrairement au magazine. Magazine, c'est un mot anglais qui est exactement dans la même lignée que magasin. Ça signifie qu'on peut trouver beaucoup de produits divers et variés, se servir, les acheter et les consommer, le tout environné de beaucoup de publicité.
On ne fait pas forcément la différence entre le rédactionnel et la publicité, d'ailleurs.
Voilà, c'est ça exactement. Et dans le but d'avoir le plus grand nombre de lecteurs possible, ce qui n'est pas du tout notre but. Notre but, c'est d'avoir de vrais lecteurs. Donc, ce n'est absolument pas rentable. Et c'est une des caractéristiques des revues. Elles ne sont pas rentables.
Après ça, il faudrait discuter de la rentabilité, ça fera l'objet d'un autre débat. Juste une dernière question assez pratique. À qui s'adresse cette rencontre du lundi 6 qui doit venir absolument qui a intérêt à venir? Qui ça peut intéresser?
Tous les lecteurs surtout, parce qu'il ne faut pas du tout penser que c'est une rencontre professionnelle entre des gens qui font des revues. C'est pour comprendre de l'intérieur comment travaillent ces gens. Voilà. On a pris deux revues, la nôtre et une revue, disons, cousine, amie, parce que nous avons des fonctionnements très proches, parce que nous sommes les uns et les autres obsédés par le sens et la transmission du sens. Et je pense que beaucoup de lecteurs ont intérêt à comprendre comment ça se fabrique, quelles sont les manières de faire, si vous voulez, et puis les difficultés qu'on rencontre. Et voilà, je pense qu'il y a quelque chose de très collectif dans tout ça. C'est ça qui caractérise aussi les revues. C'est pas simplement un patron et des employés. C'est vraiment un groupe de réflexion. Ce sont des groupes de réflexion. J'ai oublié de dire ça. C'est important. Une revue, c'est aussi ça. Ça produit du papier, mais pas seulement. Ça produit aussi beaucoup de réflexions, beaucoup d'échanges, beaucoup de débats, beaucoup de polémiques, s'il le faut. Parce que on est dans une tradition où on prend beaucoup de plaisir à polémiquer, à ne pas être d'accord et à chercher ensemble, comme les silex qui se frottent les uns contre les autres, à faire jaillir une étincelle. Et je pense que les lecteurs ont intérêt à savoir comment ça se passe à l'intérieur.
Alors ça, c'est juste encore une dernière chose, parce que vous avez évoqué la manière dont les revues fonctionnent entre elles. Pour refaire un parallèle, une comparaison avec le magazine, les magazines, on parle de concurrence. Hein. C'est à qui piquera des lecteurs à l'autre. Le monde des revues, c'est peut-être un monde où les choses se passent différemment. C'est peut-être bien aussi que les gens qui les lisent, ces revues, aient accès justement au fait que la pensée ne se concurrence pas, elle se multiplie, il y a une montée en puissance.
Quand il s'agit de vraies revues, c'est le cas, et c'est exactement comme vous l'avez dit. Quand il s'agit de vraies revues, certains magazines se parent maintenant du nom de revue pour s'anoblir, et c'est une contrefaçon. Les vraies revues, leur seul intérêt, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire la démultiplication des possibilités de penser, des outils donnés, des outils échangés, de l'échange d'informations qui ne soient pas seulement des informations, mais des pistes, en fait, des pistes pour avancer, pour que chacun puisse... par exemple, nous, et je pense que Mouvement avec un S, c'est un peu la même chose aussi, on passe souvent des papiers de gens qui sont des lecteurs. Donc il y a une espèce d'échange, de circulation permanente, où le lecteur n'est pas seulement un lecteur, c'est aussi, comme on souhaite que ça le soit pour ce qu'on appelle le spectacle vivant, et ben dans un échange, dans une interactivité permanente, de manière à ce que la hiérarchie des valeurs se fonde sur le sens et non pas sur un simple rapport de pouvoir.
Merci beaucoup.
Merci à vous.